Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. La DMP, la dynamique pour la majorité du peuple exige la publication immédiate des résultats de l'enquête sur l'agression qui s'est déroulée au siège, bien sûr, au siège de la CDPA en septembre dernier. Les opinions publiques nationales et internationales veulent savoir qui sont les commanditaires de cette agression, qui en sont les auteurs, écrit le regroupement dans un communiqué. Nous parlerons du sujet dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 3 février 2025 avec Madame Kafoui Brigitte Adiamagbo Johnson qui est notre invitée. Madame, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Merci,
et
justement.
Pour vos collègues.
Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation, madame. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse. Et nous serons bien sûr avec nos confrères journalistes, Uriel Nyang. Uriel, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour, madame. Bonjour. Très heureux de vivre cette émission avec une grande personnalité.
Moi de même.
Tout à fait. Alors, nous serons également avec Gosson Ketomania du journal Liberté. Gosson, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, nous rendons grâce. Et si tu me le permets, je veux juste dire bonjour à madame et faire un clin d'œil à la BCAO. Pas sur le plan bancaire, mais sur le plan sportif. Parce que moi, j'appartiens à un club appelé Covid FC. Un club qui est né au moment de la pandémie. Et contre les restrictions, nous avons tout fait pour nous regrouper hors de Lomé, dans un coin reculé pour jouer au football. Et depuis, le nom est resté. Donc,
finalement, vous avez profité quand même de cette pandémie pour avoir un club.
On avait le club avant. Donc, samedi dernier, on était sur les prés au centre aéré de la BCAO où nous avons croisé les crampons avec l'équipe de la BCAO. Là, j'ai été surpris par leurs prestations. Malgré leur âge et leur occupation, leur président Mkali Ndoré a tout fait pour que la fête soit belle. Et Pascal, je peux te l'assurer, elle a été belle.
D'accord,
vivement le match retour.
Merci beaucoup. Vivement le match retour. Alors, pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Et comme toujours, salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM. Nous sommes à Baga, près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie à Dapa. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibna Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. Je vous le disais, notre invitée du jour, c'est Madame Kafoui Brigitte Adiamagbo Johnson. Madame, rebonjour.
Bonjour, Monsieur Lossou. Bonjour.
Madame, vous venez directement d'un procès, un procès bien sûr, ça a été annoncé et dans les assises bien sûr, ce procès c'est concernant ceux qui ont été arrêtés dans les manifestations politiques bien sûr. Alors concrètement, comment ça se déroule de l'autre côté ce procès?
Écoutez, Monsieur Lossou, permettez-moi de saluer mes compatriotes qui sont... des auditeurs de Canal FM et qui apprécient particulièrement votre émission. Et je voudrais saluer aussi M. Godson que je n'ai pas revu depuis plusieurs années.
Il est parlé entre temps de 10 ans.
Et saluer son engagement parce que nous avons mené ensemble un combat en faveur des droits des filles, je dirais, droits des femmes et des filles, et notamment de l'exploitation sexuelle. Et j'ai été très heureuse de le retrouver ici. Pour revenir à la question que vous avez posée, oui, je reviens de la cour d'appel et où se tient le procès de 13 de nos compatriotes qui ont comparu. Et j'en suis encore tout émue. J'en suis tout ému parce que vous savez que pour nous, à la DMP, la libération des détenus politiques a toujours été une priorité pour nous. Nous n'avons cessé de le demander parce que dans un pays, les droits humains ont une importance. Et nous tous, nous devrions être d'abord des combattants des droits humains. Sinon, notre société deviendrait une jungle. Si nous devions... Personne n'est à l'abri de l'arbitraire. Et notamment pour des opinions politiques, personne ne devrait être inquiété. Alors, je voudrais saluer d'abord la dignité avec laquelle nos compatriotes font face à l'événement. C'est des citoyens togolais. Ils doivent se soumettre à la justice de leur pays. Et malheureusement, j'ai dû partir avant la fin de la lecture de l'arrêt d'accusation. Et c'est un procès qui va être très long. Je voudrais rappeler que certains de ces accusés, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, bénéficient d'une décision de justice de la Cour de justice de la CEDEAO qui avait été saisie. N'oubliez pas que c'est depuis 2018 et début 2019 qu'ils ont été arrêtés. Et pendant la procédure, leur conseil avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui a demandé à l'État togolais de purement et simplement relaxer ceux de nos frères-là qui sont jugés aujourd'hui. Et j'espère que cette décision pèsera dans la balance. Donc voilà, je suis désolé d'avoir quitté parce que j'avais pris déjà ce rendez-vous.
Tout à fait, c'est
avec
un engagement.
Vous. C'est un engagement. D'ailleurs, ça a été reporté au moins une fois déjà. Je me suis dit non, je peux plus faire ça. Il faut que je gère les deux.
Merci
voilà.
Beaucoup d'avoir
je constate que vos confrères ne sont pas nombreux là-bas pour couvrir cet événement qui doit nous interpeller tous. Mmh. C'est important. C'est important parce que on les accuse de quelque chose de grave et qui nous concerne tous. Dans un sens ou dans un autre, nous ne devons pas nous désintéresser de ce genre d'événement.
Et madame, voilà. C'est vrai que vous, au niveau de l'opposition, vous parlez toujours des prisonniers politiques, mais dans le camp adverse, on parle plus alors des prisonniers, alors de, ou des détenus, alors de droit commun, c'est-à-dire des gens
quand
même qui...
Quand vous écoutez, on les accuse de groupements de malfaiteurs, d'atteinte à la sécurité intérieure. Ça a trait à la politique, vous convenez avec moi. Et l'événement, l'accusation a trait à une marche politique que le PNP s'apprêterait à organiser à l'époque. Mais qu'il s'agisse du PNP ou de tout autre parti, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de veiller à ce que aucun citoyen togolais ne soit inquiété pour ses opinions politiques.
Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'entre-temps, vous avez toujours demandé la libération de ces prisonniers politiques. Et il y a le Front Touche pas à ma constitution, même d'ailleurs, qui a dénombré ces prisonniers politiques. Et le Front parlait de 93 personnes qui sont pratiquement en prison pour leur opinion politique, bien sûr. Alors, mais aujourd'hui, toujours est-il que ce procès a été programmé et ça a démarré ce matin. Finalement, ce serait du soulagement pour vous?
Oui, mais encore faut-il attendre la fin et s'assurer que ils ont tous bénéficié de la présomption d'innocence et que la décision qui a été rendue a été vraiment juste. Et c'est pour ça que je rappelais la décision dont il bénéficie déjà, qui est rendue dans la même affaire, où des juges de la communauté de la CEDEAO à laquelle nous appartenons ont estimé qu'il fallait tout simplement relaxer ces citoyens-là. Voilà.
Madame, je parlais de cette
exigence. Et même l'ONU, les Nations Unies aussi, des instances des Nations Unies sont intervenues en leur faveur et ont demandé qu'ils soient libérés.
Cette libération des détenus politiques, vous l'avez exigée tout récemment dans une déclaration lors de la première conférence de presse que vous avez animée dans cette année. Et au cours de cette conférence de presse, vous avez fait l'état des lieux, surtout le bilan de la vie ou de la gouvernance au Togo. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de cette gouvernance ou de ce bilan?
Je pense que sur le plan politique, de la gouvernance politique, le Togo qui peinait déjà à prendre le chemin de la démocratie a reculé énormément en 2024. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que quand on en arrive à une situation où une constitution est adoptée sans que on ne demande l'avis du peuple véritablement et seul souverain, eh bien, il y a un problème. Et ça a créé une situation dans laquelle, eh bien, une bonne partie des Togolais contestent cette nouvelle constitution. Et quand on est devant cette situation-là, il faut faire quelque chose. Il faut écouter le peuple. Il faut trouver le moyen d'écouter le peuple, de mettre bas la terre, de revenir sur l'acte qui a été posé en violation de sa souveraineté. En ce qui concerne le domaine social, le bilan n'est pas plus gai dans la mesure où 2024 a été une année de souffrance, je dirais même accrue. C'est en 2024 qu'on a vu des citoyens se ruer sur du riz avarié pour en consommer et dire que s'ils en trouvaient encore, ils en prendraient. C'est le signe que on a eu faim en 2024. Et en 2024, oui, il y a eu côté santé, il y a eu la MU, la MU qui a été mise en place avec beaucoup de problèmes et malgré ça, eh bien, les Togolais ont toujours du mal à se soigner. Prenez la question de l'éducation. L'état de nos établissements scolaires, même à Lomé, hein, ici, on n'a pas besoin d'aller loin à l'intérieur. Tenez, je pensais au lycée du 2 février qui a été fermé il y a 2 ans, au moins, je pense, et qui reste toujours fermé. Donc, il y a aussi la question des enseignants qui ont été licenciés, 116 enseignants, et qui ont bénéficié aussi d'une décision de l'OIT qui demande tout simplement que eh bien, ils soient indemnisés, qu'ils puissent reprendre leurs activités syndicales. Ça veut dire que les responsables là, qu'on a punis, puissent être réintégrés. On est dans un secteur où on a besoin de ressources humaines. Les ressources humaines sont insuffisantes. Et voilà, ce problème à ce jour n'est pas résolu. Sur le plan économique, je vais en parler rapidement. D'accord. Sur le plan économique, la situation de notre économie n'est guère reluisante. On a dénoncé un certain nombre d'anomalies que nous avons relevées dans l'analyse du budget. Je dirais, pour le commun des Togolais, nous sommes trop endettés. Le niveau d'endettement inquiétant, ce n'est pas soutenable, parce que ça veut dire que on est dans la situation d'un père de famille qui gagne, mettons, 100 francs par mois et qui doit dépenser environ 60 francs pour payer ses dettes. Vous comprenez à quel point notre situation est grave. Et ceci se passe alors que nous avons des sociétés d'État, nous avons des entreprises qui exploitent nos ressources minières, telles que la SNPT, nous avons des entreprises telles que le port autonome de Lomé, pour ne citer que ces deux-là, mais l'ensemble de ces sociétés dans lesquelles l'État a des actions, eh bien, ça ne contribue même pas à 3% du budget. Sur quoi voulez-vous qu'on compte pour développer le pays, répondre aux besoins des Togolais? Où va cet argent-là? C'est quelque chose que nous avons dénoncé. Bon, on nous dit maintenant qu'il y a un audit qui va se faire, qui va commencer pour certaines de ces sociétés-là. On espère que ça va nous permettre de voir plus clair et surtout de faire en sorte que les ressources dont regorgent nos pays profitent vraiment aux Togolais et non seulement à quelques-uns. Voilà un certain nombre de sujets que nous avons abordés parce que la situation est telle que le Togo n'a même pas les moyens suffisants pour investir, ce qui n'est pas normal pour un pays qui a autant d'atouts. Ce n'est pas normal. Et surtout la question du port autonome de Lomé. J'étais ébahi d'entendre le directeur dire « Non, non, notre situation n'est pas si rose que ça. Vous voyez les camions passer, mais ces camions vont chercher pour la plupart des marchandises au port de Cotonou et vont dans les pays du Sahel en empruntant la Nationale 1. Mais c'est pas convaincant. On voit ce qui se passe, on voit qu'il y a des activités
d'accord, oui.
Port autonome.
Mais madame, c'est vrai que la Cour des comptes a apporté de l'eau à votre moulin.
Absolument.
Justement, de telle enseigne que alors, la Cour des comptes nous faisait déjà ce rapport de.
Et nous sommes contents que Touche pas à ma Constitution se soit saisi aussi de ce sujet-là.
Oui, mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez fait la démarche pour aller peut-être vers le gouvernement, voir, et pour écouter, alors, et pour recevoir des explications sur ce sujet?
C'est comme si vous aviez lu dans ma pensée, parce que vous savez que nous sommes en intercession parlementaire, et le projet, c'est justement d'aller vers ces sociétés-là, d'échanger avec elles et de comprendre ce qui se passe réellement, comme les parlementaires en ont le droit, les élus du peuple en ont le droit. Nous avons le droit d'en savoir plus pour pouvoir vous rendre compte.
D'accord. Gosson Ketemwanya a certainement une question pour vous. Gosson, vous avez une question pour madame?
Bon, des questions à proprement parler, je ne dirais pas. C'est comme si madame et nous, à Liberté, ramons dans le même sens. Parce que il faut que les ressources du pays profitent aux citoyens. Mais alors, à l'Assemblée nationale, par rapport à l'effectif que vous êtes du côté des partis critiques du pouvoir, pensez-vous qu'avec le nombre que vous êtes, vos voix pourraient être entendues et non noyées dans la masse?
Ben, ça, c'est une très bonne question, parce que si on voulait faire un raisonnement logique et sans aller en profondeur, on serait tenté de dire vous êtes tellement minoritaire que ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Mais en revanche, si on se pose la question de savoir, au-delà de ce handicap-là que nous avons, comment justement utiliser le peu de sièges que nous avons pour faire avancer le combat, c'est là où on trouve des stratégies. Je suis ici en train de parler parce que, en tant qu'élu ayant décidé de siéger, j'ai pu avoir accès à tous les dossiers et que j'ai pu échanger avec les institutions qui ont bien voulu jouer le jeu, encore que tout le monde ne soit pas venu, d'abord parce qu'on n'en avait pas beaucoup le temps. Dès le départ, le gouvernement lui-même a violé la loi relative aux lois de finances et qui prévoit que la procédure s'étale sur les 3 mois que dure la session budgétaire. Mais avec le peu que nous avons pu faire, nous sommes en mesure de déceler les anomalies, de poser les questions qui gênent, qui interpellent, qui font réfléchir. Et nous sommes en mesure surtout de rendre compte au peuple pour que c'est le seul souverain. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. C'est le peuple qui, au regard des informations que vous lui donnez, prendra ses responsabilités pour interpeller. Nous sommes en démocratie et il y a des moyens, des voies légales pour interpeller. Vous me direz, dans notre contexte, on a confisqué ces moyens-là. Mais on va les confisquer indéfiniment. Il appartient au peuple, le jour où il voudra, de décider de récupérer ses voies légales.
D'accord.
Okay. Et de montrer qu'il veut que les choses changent.
D'accord. Merci, madame. Uriel, vous avez une question pour madame.
Oui, une question. C'est une très belle opportunité. J'attendais impatiemment, croiser madame un jour pour lui poser cette belle question. Juste de savoir si aujourd'hui l'opposition togolaise peut établir une liste des succès réalisés par le pouvoir en place au plan économique, politique et social, sur les 3 plans seulement. Est-ce que vous pouvez, d'une façon honnête, dire au peuple que voilà, depuis que le pouvoir est en place, quand même on a noté du bon sens ici, au plan politique, au plan social et économique. Parce que c'est sur ces trois dimensions qu'il y a toujours problème. Est-ce qu'on peut avoir une petite liste des succès?
D'accord. Madame?
Moi, je suis sûr que si vous posiez cette question aux gens du pouvoir eux-mêmes, ils seraient très gênés. Et je dis, en tout état de cause, que c'est à eux qu'il appartient d'établir cette liste-là. Chacun dans son rôle. Moi, je suis opposition et mon rôle, c'est de s'assurer que tout va bien dans l'intérêt des populations. Même à supposer que tout soit blanc, s'il y a une petite tache, mon rôle, c'est de mettre le doigt sur cette tache-là plutôt que de dire tout est blanc. Et encore que, ce bilan-là, on est loin de l'établir au Togo. Comment vous pouvez dire, dans cette marée de problèmes que nous avons et qui sont engendrés par la gouvernance qui est pratiquée, comment voulez-vous, c'est même indécent. À supposer que je veuille le faire, de me tenir devant les Togolais qui souffrent. Aujourd'hui, je veux penser à tous ceux, et je sais que c'est la majorité, qui ont du mal pour prendre un seul repas. Vous voulez que je me mette devant eux et que je leur dise, vous souffrez, vous n'arrivez pas à vous soigner. Oh, mais vous aussi... Regardez, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela. Prenons le cas de l'AMU. J'en ai parlé tout à l'heure. L'assurance maladie universelle, en principe, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose qu'il faut faire si on veut aller vers le bien-être social des citoyens. Et un gouvernement n'a aucun mérite. Il ne peut même pas s'en prévaloir. La preuve, c'est que ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe. Et ça se passe ailleurs dans de bien meilleures conditions que ce qu'on a commencé au Togo. En principe, c'est une bonne chose. Mais voyez comment ça se met en œuvre. Voyez tout ce que ça représente comme charge supplémentaire aux employés, aux salariés, tout comme à ceux qui les emploient. Et ils s'en plaignent. Et effectivement, on est en droit de se poser la question de savoir, oui, ce gouvernement qui a vu ce qui se passe ailleurs, qui a compris qu'il faut aller vers là. Qu'est-ce qu'il met dedans? Qu'est-ce que l'État, nos fonds publics là, ils prennent quoi en charge pour soulager les employés? Voyez? Et puis, c'est fait de telle manière que on peut dire que ça a du plomb dans l'aile. Et en tout cas, ça suscite encore beaucoup de questions. Je ne veux prendre que cet exemple-là d'une action qui, en principe, devrait être louée, mais qu'on est obligé de critiquer.
Parce que, alors, c'est vrai, vous l'avez dit tout de suite, madame, vous êtes dans votre rôle et le pouvoir en place est aussi dans son rôle quand c'est peut-être une personnalité alors du pouvoir qui est devant nous maintenant et son langage, son narratif aussi serait autrement et ça se comprend. Mais madame, est-ce que ça veut dire...
Les faits sont là.
Oui, mais madame...
Il ne s'agit pas de construire un narratif qui présente les choses comme si tout était beau, les faits sont têtus.
Oui, madame, est-ce que ça veut dire que, honnêtement, depuis 2005, quand le président Faure Gnassingbé a pris le pouvoir jusqu'à présent, pratiquement 20 ans, est-ce que rien de bon n'a été fait?
Mais la question du bilan est posée. Et j'ai dit tout à l'heure, si vous avez fait attention, qu'il faut déjà, je vous ai déjà entendu poser la question au tenant du régime, c'est à de faire le bilan pour qu'on en débatte. C'est à eux. Mais je parie et je dis, c'est difficilement qu'ils vont pouvoir faire le bilan. Ailleurs, on voit, il y a, par exemple, au Bénin, quelqu'un qui a la tête de ce pays et qui n'a pas encore fait 8 ans. Mais ce qu'il montre comme réalisation à son actif, eh bien, ça fait pâlir d'envie les Togolais que nous sommes. Nous nous disons, oh, si on avait ça, au moins, on se consolerait.
D'accord.
Bon, ma question va s'orienter sur les médias, mais en considérant la chute de madame tout à l'heure, j'ai comme l'impression que des fois nous nous trompons. Ici, nous sommes au Togo, nous parlons du Bénin, par exemple. Il suffit d'aller là-bas et de poser la question à 1, 2, 3 Béninois. Ce qu'ils vous diront, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'était une parenthèse. Madame, vous avez été surprise de constater presque l'absence des médias lorsque vous quittiez la cour d'appel. Vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez été surprise qu'il n'y a pas de médias pour couvrir l'événement. Est-ce qu'on peut noter des initiatives aujourd'hui de la part de l'opposition pour le bien-être des médias? Est-ce que vous avez des initiatives, l'opposition, pour le mieux-être des médias?
Mais ce que nous faisons, nous constatons que les médias ont des problèmes. Et nous les soutenons. Nous les soutenons. Nous les défendons à chaque fois. que les médias, les hommes de médias, les femmes de médias, que leurs droits sont violés, nous les soutenons. Et nous menons un plaidoyer pour eux. Alors, quand vous nous demandez des initiatives, nous sommes au pouvoir, nous avons les ressources publiques, les initiatives qui doivent être prises en faveur des médias, il faut que ce soit sur la base des ressources publiques.
Est-ce que des propositions sont déposées à l'Assemblée nationale, par exemple, en faveur des médias?
Mais si c'est cela que vous attendez, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je ne sais pas si ce que vous voulez faire croire, c'est que nous ne soutenons pas les médias. Mais je pense que nous sommes dans la même barque que les médias. Nous connaissons l'importance des médias dans une société démocratique. Et ce n'est pas nous qui ferons quoi que ce soit pour les empêcher d'évoluer, de se développer.
D'accord.
Je peux clore ce débat-là sur ce point, cette mise au point que vous aurez du mal à contester.
Pascal, oui. Juste pour dire que, parlant des actions que l'opposition pourrait mener en faveur des médias, c'est comme si madame a lu dans mes idées comme une partie de ce que je voulais dire. Bien sûr, cela va de soi. Les leviers des finances du pays sont entre les mains de ceux qui gouvernent. En quoi est-ce que une proposition à l'Assemblée va participer à l'amélioration, par exemple, de l'aide de la presse à l'État? Quand on se rappelle que il y a eu une année où cette aide a été portée à la hausse, mais parce que un ou deux confrères auraient posé un acte, ce n'est pas l'Assemblée qui a décidé à ce qu'on ramène cette aide-là au niveau initial. C'est une seule personne qui l'a décidé et ça s'est appliqué. Donc aujourd'hui, moi, je souhaiterais justement, c'est en ça que c'est bon l'alternance au pouvoir. Quand l'opposition va arriver, on va en mina facile déposer nos yeux pour voir ce qu'elles feront, ce qu'elle fera en faveur des médias, pour que, à l'heure du bien, on puisse leur dire vous avez fauté, retournez dans l'opposition, et que ceux qui étaient au gouvernement et qui se sont retrouvés en tant que dans l'opposition reviennent au pouvoir. C'est en ça
On va aborder un autre sujet que j'évoquais au début alors de cette émission dans mes mots introductifs. C'est concernant l'agression du 29 septembre 2024 au siège de la CDPA. Dans un communiqué, vous êtes revenu sur, bien sûr, cette agression et vous exigez aujourd'hui la publication immédiate des résultats de cette enquête. Et cette enquête dans laquelle même d'ailleurs il y a des gens également qui ont été audités parmi vous.
Oui, merci de poser ce problème-là. Effectivement, nous avons sorti ce communiqué parce que, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous demandons la publication des résultats de l'enquête. Nous les avons demandé en d'autres occasions. Et la dernière fois, quand nous faisions le bilan de l'année 2024 et abordions les perspectives. Mais aujourd'hui, ça fait 4 mois, c'était le 29 septembre que l'agression a eu lieu. Et nous estimons que après 4 mois, il est temps. Il est vraiment temps qu'on puisse nous dire ce qui s'est passé exactement. Qui sont ceux-là qui ont commis ces actes ignobles et qui en sont les commanditaires, parce que nous sommes censés être dans un état de droit. La preuve, aujourd'hui, il y a des concitoyens qui sont jugés. Pourquoi faut-il qu'il y en ait que certains à chaque fois qui subissent la rigueur de la loi? De manière même exagérée, on se précipite pour faire les choses, pendant que d'autres bénéficient tranquillement de l'impunité et peuvent se lever et faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça. 4 mois après ces événements-là qui ont provoqué un tollé général, pas seulement au Togo, hein, mais partout en Afrique et dans le monde, des événements qui ont fait comprendre, heureusement, ce que nous vivons dans notre pays, nous, Togolais. Et des gouvernants soucieux de préserver leur image, soucieux de faire en sorte que leur pays ne soit pas considéré comme un pays où la règle, c'est la violation des droits de l'homme. Mais ils auraient réagi depuis longtemps avec promptitude. Et nous, on avait cru que c'était dans ce sens que, au lendemain de l'agression, le gouvernement avait annoncé que des enquêtes seraient ouvertes. Mais 4 mois, avouez que ça ressemble encore aux situations que nous avons connues par le passé, où des gens ont souffert dans leur chair, ont été marqués psychologiquement, où on a frôlé vraiment la mort. On était en situation où notre ami Guy Marius Sagna, nous on pensait que il allait en arriver à perdre la vie parce que il est tombé à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et dans tout ça là, on va chercher encore à faire oublier. Ce n'est pas normal.
Alors, madame, et quand des gens parmi vous ont été auditionnés, concrètement, quelles sont les questions qu'on leur a posées?
On peut pas, je peux pas vous donner les détails d'une affaire pour laquelle on ne nous a pas dit que l'instruction a été clôturée. Mais ceux-là qui ont été entendus comme témoins était censé apporter aux enquêteurs des informations sur ce qui s'est passé pour que ils puissent être orientés vers les auteurs, qui puissent situer les responsabilités. Et je peux vous garantir que toutes les informations ont été données dans cette affaire-là. On sait que pendant que l'agression se déroulait, il y avait déjà un quart de la gendarmerie qui était positionné avec des gens en fonction, habillés, et donc qui étaient à même de pouvoir voler au secours de ceux qui étaient agressés. Il y a déjà une question à élucider. Ils ont vu, les photos sont là. Ils sont même venus, les enquêteurs, pendant l'enquête, retourner sur les lieux pour mesurer la distance entre le siège, c'est un grand portail ouvert, et le lieu où la voiture de gendarmerie était positionnée. Et c'était évident que du portail ou du lieu où eux ils se trouvaient, ils avaient une vue sur ce qui se passait. Donc déjà, au moins, on peut questionner la responsabilité de cela. Comment ça se fait que vous, qui êtes, qui avez comme fonction de protéger les citoyens, comment ça se fait que vous ayez pu assister à ça et que vous n'ayez pas bronché du tout, mais que vous ayez attendu jusqu'à la fin du forfait? C'est quand les gens ont eu fini et que ils se sont comment dirais-je, retirés, que la voiture aussi a démarré. Est-ce que ça là, c'est des éléments, on n'a pas besoin
D'accord.
D'approfondir.
D'accord, oui. Uday, une question.
Sur le sujet, madame, comment interprétez-vous le fait que le Sénégal n'ait pas réagi comme vous le pensiez à la suite de, entre guillemets, l'agression sur Mohamed Sagna?
Pourquoi pensez-vous que le Sénégal n'a pas réagi?
Oui.
Le Sénégal a réagi.
Oui, mais pas comme.
Et le Sénégal a demandé que la lumière soit faite.
Tout à fait, par un
Qu'est-ce
communiqué.
Qu'est-ce que vous vouliez d'autre comme réaction? Que le Sénégal attaque le Togo
non,
ou quoi?
Non, pas ça. Il y a plusieurs façons de réagir. Oui. Réagir lorsqu'on dit oui. qu'un compatriote togolais, par exemple, soit agressé oui. au Ghana ou au Bénin.
Oui.
Est-ce que ça serait la même forme, le même état, le même degré de réaction que ce qu'on a vu par rapport au Sénégal, ou bien c'est la sagesse qui a prévalu au niveau du Sénégal?
Ou la diplomatie.
Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais à mon sens,
non, pas insinuer.
Le Sénégal a réagi comme cela se devait, puisque dans la nuit même, c'est le personnel de l'ambassade du Sénégal qui est allé déposer plainte d'abord au nom de leurs concitoyens. Ça, c'est un fait qui est établi. Et puis, nous avons eu un communiqué dans lequel le Sénégal a manifesté clairement qu'il n'était pas content. Il ne peut pas être content de ce traitement subi par un de ses concitoyens et a demandé à ce que la lumière soit faite. Et le Sénégal a veillé par l'intermédiaire de ses représentants à ce qu'il reste en sécurité jusqu'au lendemain où on l'a mis dans l'avion. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer.
On donne la parole à Gosson. Gosson a aussi une question. Gosson,
c'est pas une question, mais juste pour relever une situation. Lors de ce malheureux événement, il se trouve qu'il y avait un citoyen sénégalais. Mais je veux faire abstraction de Guy-Marius Sagna pour me focaliser sur nos confrères, hommes de médias, qui avaient été molestés. Pascal, tu m'excuses. On n'a pas besoin d'être un étranger pour que la lumière soit faite sur ce malheureux incident. Je ne veux même pas parler d'incident parce que ça pouvait être moi, ça pouvait être toi, ça pouvait être Uriel. Au nom de quelle logique on fait irruption dans un cercle fermé pour bastonner des gens et repartir, mais sans que ça n'émeuve la gouvernance? Moi, je suis personnellement outré et interpellé. Il est plus que temps qu'on mette des visages sur les noms, ou alors les noms sur les visages, afin que on connaisse la vérité. Guy-Marius Sagna, il est reparti. Mais nous sommes tous des Guy-Marius Sagna. Je suis citoyen, je suis un humain. Donc, normal que cet acte soit condamné. Et l'État togolais a tout à gagner en allant jusqu'au bout de cette affaire.
D'accord. Ok, nous allons nous intéresser à notre sujet.
Oui, juste pour en finir, je pense qu'il n'y a aucun Togolais qui souhaite l'étouffement de cette affaire. Je ne pense pas qu'il y ait un Togolais qui, à l'heure où nous parlons, souhaite qu'une enquête n'aboutisse. Non, je ne pense pas. Nous voulons la lumière sur toutes les affaires, puisque nous sommes des êtres humains. Donc, ce que nous disons, nos analyses, c'est les gens doivent nous comprendre. Est-ce que moi, par exemple, je me dis que 4 mois, je me dis, peut-être que en tant que profane, 4 mois, ce n'est pas encore trop pour livrer les résultats d'une enquête. Et là, je profite de faire cette proposition qu'au lieu qu'on réclame ou bien qu'on publie rapidement les enquêtes, les résultats des enquêtes de ce malheureux événement, il fallait plutôt tenir compte aussi des événements antérieurs pour additionner la liste, puisque celui-ci paraît même le plus récent. Est-ce que c'est la seule enquête qui n'est pas encore sortie, qui n'a pas encore sorti les résultats? Donc pourquoi vous n'avez pas tenu compte des autres enquêtes antérieures? Il fallait additionner la liste pour qu'on voit clairement ce que, sinon aucun Togolais ne pourra dire non, telle affaire s'est passée, il faut l'étouffer. Un jour, ça sera son cas. Donc, nous analysons objectivement les situations. Il faudrait que les gens essaient de nous comprendre.
D'accord. Oui, madame.
Non, mais comme vous l'avez dit, les Togolais souhaitent à ce jour en savoir un peu plus sur avoir la vérité dans les différentes affaires pour lesquelles des enquêtes ont été ouvertes. Et ce serait tant mieux. Mais nous avons une affaire qui est récente, la toute dernière, dans laquelle nous sommes impliqués. C'est notre droit et notre devoir d'exiger. Qu'on commence par là. Sinon, ça pourrait avoir un effet de noyade. C'est comme si on noyait cette affaire-là dans toute la série. Si on ouvrait la liste aujourd'hui, vous-même, vous savez que cette liste-là serait longue. Alors, commencez par la dernière en date. Et je suis d'accord avec vous, vous et moi et nous tous, les Togolais, nous pourrions en profiter pour demander que, on fasse la lumière sur tout ce qui s'est passé.
D'accord, madame, on va s'intéresser à notre sujet, on s'intéresse au sénatorial. Sénatorial, on sait que déjà les élections sont prévues pour le 15 février, bien sûr, c'est-à-dire dans ce mois de février. Alors, et finalement, quelle est l'impression que vous avez sur les préparatifs à l'heure de ces élections?
Oh, je pense que c'est quelque chose qui est désapprouvé par les Togolais qui s'en désintéressent. On observe et on continue de dénoncer et de dire « Nous n'avons pas besoin de ça. » Et de dire « Nous n'avons surtout pas besoin de ça dans le contexte actuel » où on veut utiliser ces sénatoriales pour mettre en place un régime politique que les Togolais n'ont pas choisi. Ça, c'est clair. Les Togolais, leur position n'a pas varié, d'autant plus qu'ils savent que ça va être de nouveau une institution budgétivore. Ça va prendre encore, on va devoir consacrer une bonne partie du budget à cette institution-là, alors que on peut faire avec une assemblée nationale qui est là. Mais dans tous les cas, les Togolais ne peuvent pas approuver lorsqu'on sait que tout ça là se passe sans leur avis, en violation de leur souveraineté. Donc, vous voyez, ce que je voulais dénoncer, c'est que, en guise de campagne, il y a des gens, des candidats, qui se disent même de l'opposition et qui se lancent dans des pratiques qui s'apparentent à de l'achat des voix. Qui propose, qui sollicite le vote de conseillers régionaux et de conseillers municipaux en contrepartie d'une somme d'argent ou même de biens. Nous, nos conseillers savent ce qu'ils ont à faire. Et bien d'entre eux ont rejeté ce genre de pratique. Et je voudrais dénoncer ça avec la plus grande fermeté. Quand vous, vous candidats de l'opposition, soi-disant, vous allez offrir, quoi encore, un sac de riz, une enveloppe de 50 000 francs pour que quelqu'un qui fait partie du corps électoral vote pour vous, je dis que c'est indigne.
Alors, madame,
c'est indigne.
Oui, madame, est-ce que ça ne fait pas partie?
C'est quelque chose, c'est une pratique inaugurée et qui est habituelle chez le régime que nous combattons. Et je suis absolument scandalisé, choqué de voir que des partis dits de l'opposition y ont également recours.
Et madame, est-ce que ce que vous dénoncez ne fait pas partie de ce que les uns et les autres ont appelé hein, dans ces élections la négociation?
Ah bon? Ah bon? On négocie, c'est ça qu'on appelle négociation? Ça s'appelle de l'achat de conscience. De l'achat de conscience.
D'accord.
Et normalement, c'est interdit.
D'accord.
Par alors, la loi.
Oui, madame, on sait également que déjà avec ces élections, ça crée, ou les préparatifs même d'ailleurs de ces élections, ça crée également de remous au sein de certains partis politiques de l'opposition, notamment l'ANC. On a vu tout récemment l'exclusion même d'ailleurs de 7 membres alors de ce parti. Et également pour les FDR, c'est 2 membres qui ont été exclus pour également... pratique ou le même motif, bien sûr. Alors, madame, comment vous appréciez cela?
Ben, ça s'explique par le fait que la discipline de parti est importante. Je suis chef de parti politique et je peux comprendre que quand vous avez adopté une position donnée qui émane des instances de prise de décision du parti, mais je comprends que cette position-là s'impose aux militants. Et c'est de l'indiscipline notoire et qui mérite une réponse que des militants adoptent une attitude qui aille à l'encontre de la ligne définie à un moment donné par leur parti. Et donc, quoi de plus normal que ce genre de décision soit prise par les partis?
Est-ce que ça ne s'explique pas le fait qu'il y a des mécontents aujourd'hui au sein de l'opposition par rapport à certaines positions?
Mais ils ont le droit. Ils ont le droit d'être mécontents. Mais quand tu es mécontent, il faut être conséquent, il faut être cohérent, il faut quitter la barque. Il faut quitter la barque et être libre, être délié de l'obligation de se conformer à la décision du parti. C'est ce que... tout le monde aurait compris.
Puisque la ligne, le parti a une ligne conductrice.
Ah,
oui, une question.
Oui, une question dans ce sens. Oui. Madame, vous siégez actuellement à l'Assemblée nationale. Je suppose ou nous supposons que vous avez suivi le bon sens, puisque vous avez été élu par le peuple et vous vous êtes dit, le peuple m'a choisi, je dois aller faire valoir mes connaissances en faveur du pays. Est-ce que vous ne pouvez pas aider les autres à comprendre qu'il ne sert à rien de continuer de mener la politique de la chaise vide?
Vous êtes en train de m'amener à vouloir critiquer des décisions qui sont prises par des partis politiques engagés dans le combat contre un régime que nous rejetons tous parce que causant beaucoup de tort aux Togolais. Alors, dans ce combat-là, chacun est libre de définir ses stratégies. L'essentiel, c'est que les efforts que les uns et les autres font convergent vers le résultat que nous poursuivons tous. Et donc, il ne m'appartient pas de me dire « c'est moi qui ai raison, c'est ma stratégie qui est la meilleure, donc vous devez venir absolument à ce que je fais. » Non. À partir du moment où ce que l'autre a décidé d'utiliser comme stratégie produit aussi des résultats. Et j'ai dit ici, j'ai démontré pourquoi il est utile que le seul siège de la DMP soit occupé là-bas. Et je voudrais finir en disant le boycott, la politique de la siège vide, la chaise vide. Mais vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les acteurs politiques le font? C'est aussi une arme de combat. Et vous ne pouvez pas décréter que, par principe, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais. Mais si vous faites l'analyse devant le cas précis et que vous voyez que dans ce cas précis-là, je ne suis capable de faire que en ne boycottant pas, mais vous le faites. Mais celui qui est capable de faire en boycottant, il le fait aussi. Ce qui serait condamnable, c'est de boycotter et de ne rien faire.
D'accord. Maintenant, l'inquiétude sur le sujet, c'est que on a comme l'impression que c'est une auto-extermination subtile de l'opposition. On s'est dit que aujourd'hui on a gagné par exemple un siège, on ne siège pas. Est-ce que demain ça sera facile pour nous de retourner vers les mêmes personnes qui nous ont, je ne sais pas si vous suivez, les mêmes personnes qui nous ont fait confiance? Est-ce que pour d'autres élections, est-ce que ça sera facile pour nous de retourner?
Quand la situation aura changé, oui. Quand la situation aura changé, vous trouvez normal que dans un pays où les Togolais souffrent, où il y a tant de problèmes, où ils veulent être libres, vous trouvez normal qu'on aille à des élections et qu'un régime qui est là depuis plusieurs décennies, depuis bientôt 60 ans, prétende avoir obtenu plus de 90% des voix des Togolais? Les Togolais sont, c'est pas des gens normaux alors. C'est ce que vous êtes en train de dire. Que c'est pas des gens normaux, c'est des gens qui aiment leur bourreau. Commencez déjà par constater que cette situation-là est anormale. Et c'est contre ça qu'une des réactions pourrait être de dire ce siège ridicule, qui ne reflète pas la réalité des choses, on ne le prend pas. Mais l'autre réaction aussi, c'est de dire on n'abandonnera aucun espace. Le plus petit espace, on l'utilisera pour continuer le combat.
D'accord, madame. On écoute Gosson aussi. Oui. Gosson,
c'est juste pour donner, ou alors mettre
de l'eau,
pas de l'eau, renforcer la conviction de madame qui parlait de sénatorial budgétivore. Quand on sait que de plus en plus il est difficile de rassembler les recettes, mais que rien qu'en 2025, là c'est Liberté qui l'a sorti ce matin, l'État togolais doit 877 milliards en termes de remboursement de dettes avec les intérêts, il faut comprendre que effectivement ces sénatoriales sont budgétivores, puisque l'argent ne tombe pas du ciel. C'est pas les taxes, les impôts et autres qu'on collecte le nécessaire pour confectionner le budget. Et 877 milliards, c'est plus du tiers de notre budget qui sera consacré au remboursement des dettes que le pays a contractées. Mais quelles sont ces réalisations issues de ces emprunts qu'on effectue sur le marché régional et ailleurs, et qui fait que rien qu'en cette année, c'est cette manne-là qui doit être déduite de notre budget?
D'accord.
Une fois de plus, les sénatoriales, c'est budgétivore.
Ok, d'accord. Il est déjà midi. Nous allons maintenant donner aussi la parole à nos auditeurs qu'ils nous posent des questions. Mais madame, avant de donner la parole à nos auditeurs, j'aimerais quand même qu'on dise quelque chose sur ce sujet. Le sujet concernant, il y a de cela pratiquement 20 ans que l'ancien président, le feu président Gnassingbé Eyadema est décédé, puisque le 5 février prochain, pratiquement le mercredi, et ce serait 20 ans. Alors, oui, je suivais un homme influent du parti hier sur une radio de la place qui, déjà quand je l'écoutais tout au long de l'émission, j'ai compris quand même que c'est quelqu'un qui a été nostalgique à l'heure de l'ère et Adéma. Alors, finalement, est-ce que vous aussi, vous êtes nostalgique à l'heure de cette période des Adéma?
Mais comment pourrais-je en être nostalgique si je n'ai jamais appartenu à ce régime et que j'ai toujours vu mes parents dénoncer tout ce qu'il y a eu comme injustice par conséquent, j'ai pris le pli très tôt et je me suis engagé pour un Togo beaucoup plus juste. Alors, on est des humains. Ce que je dis, c'est paix à son âme. Et je suis convaincu que de là où il se trouve, si il est donné aux gens le pouvoir de voir encore ce qui se passe sur le terrain, je suis convaincu qu'il aura compris ce qu'on lui a tout le temps reproché et souhaiterait que les choses changent pour que nous vivions dans un Togo libre, un Togo où tous les fils et filles, main dans la main, travaillent à bâtir la prospérité, parce qu'il faut y travailler. Ça ne vient pas tout seul. Il faut y travailler. Un Togo régnerait effectivement la paix et la concorde qu'il a tant souhaité dans ses discours, hein, même si les actes n'ont pas suivi. Et vous me permettrez, tout en lui souhaitant paix à son âme, vous me permettrez par contre de critiquer vivement ceux qui seraient dans une logique de nostalgie et qui se mettent à rêver que on peut retourner, on retourne à la période de parti unique, parti État. On ne peut pas aller dans le sens contraire de la roue de l'histoire qui tourne. Le sens normal, c'est que nous irons vers la démocratie, qu'on le veuille ou pas. Nous irons vers un monde plus juste. Tout, mais partout ailleurs dans le monde, les humains se battent pour ça. Et c'est maintenant que les gens se prennent à rêver que on va retourner au temps où beaucoup de Togolais seraient assujettis à danser pour le monarque, à louer le monarque. Mais il faut oublier ça.
C'est-à-dire, madame, quand le président Fonia Singbe déclarait que lui, c'est lui et moi, c'est moi, est-ce que finalement, aujourd'hui, en prenant les deux gouvernances, est-ce qu'il n'y a pas de différence?
Je ne veux pas dire que c'est un pire. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas confirmé dans la gouvernance. Il avait laissé entendre qu'il y aurait une autre pratique. Et quand vous placez ça dans le contexte dans lequel il l'a dit, un contexte où les Togolais aspiraient vraiment au changement, aspiraient à aller vers un pays véritablement démocratique, je pense qu'il les a trompés. Il les a trompés. Et il y en avait qui étaient circonspects, c'est eux. D'accord. Qui ont eu raison aujourd'hui.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci pour vos interventions. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour poser des questions à madame Kafui Brigitte Adjamagbo-Johnson, députée à l'Assemblée nationale et également coordinatrice de la DMP Dynamique pour la majorité du peuple. Et sans oublier que madame est aussi la secrétaire générale alors de la CDPA. Alors, vous pouvez nous appeler appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous sommes toujours avec Madame Kafui Brigitte Adamagbo-Johnson. Madame, je vais vous prier de porter votre casque qui est devant vous puisque vos compatriotes veulent vous parler et ils ont certainement des questions à vous poser. Et donc, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, allô, Pascal, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bon, je vais vous faire la grâce de Dieu.
Saint Évangéliste Senghor.
Voilà. Ma soeur, maman, Tadjamabo, Kapi.
Oui, Évangéliste Senghor. Oui, votre radio à côté fait un peu de bruit, s'il vous plaît. Vous pouvez diminuer son volume.
Madame Adjamabo, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor. Comment vous allez? Mère
veut de santé, hein?
Pardon?
Mère veut de santé.
Merci. La santé qui compte pour vous. Oui, merci beaucoup. Prions pour notre pays, le Togo. Ouais, il doit prendre le bon virage cette année.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Pardon?
J'ai dit ça va finir un jour.
Oui, bien sûr.
Aucune république n'appartient pas à un homme. Hein.
Absolument. Absolument.
Voilà. Il faut qu'on ait la conscience parce que nous sommes des chrétiens, des croyants.
C'est pour ça que nous nous battons. Et que notre pays prenne le bon virage cette année.
Oui, Évangéliste Senghor. Oui, si vous avez une question, posez la question, s'il vous plaît.
Voilà. Je vais poser la question à madame pour voir. Bon, aujourd'hui, nous sommes à la 5e République. Comme le gouvernement, eux-mêmes, ont pris une décision. Bon, Paul Nassinga a terminé son mandat de 20 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas mis quelqu'un en prison où les gens ont détourné les biens, les données publiques. Jusqu'à présent, madame, vous qui êtes l'opposition, parce que l'argent là, c'est pas pour qu'on ait fini, mais c'est pour tous les Togolais. Qu'en pensez-vous quand même de ce côté? Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame Évangéliste Senghor, toutes mes excuses. Hein, 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
Allez-y.
Madame, bonjour.
Bonjour, combattant Pélé.
Ok. D'abord, une proposition. Et je voudrais passer tous les journalistes togolais qui vont aider le peuple togolais à continuer. Chaque 29 de chaque mois, il faut tenir un point de presse ou bien une conférence de presse à ce qui concerne, pour voir clair, la fermeture de cette enquête, de cette agression barbare. Il faut tenir compte de ça, que chaque 29 de chaque mois, il faut se rappeler de ça. Maintenant, tout à l'heure, Monsieur Pascal, vous posez une question, est-ce que vous avez la nostalgie de Papa Yadema? Et je pense que moi, je peux être nostalgique de Papa Yadema s'il quittait le pouvoir depuis 1990. Parce que je ne vois pas les rapports, comment Papa Yadema a largué un pays délabré, politiquement divisé, et qu'on peut être nostalgique de ça. Je pense que tout ce qu'ils disent, quand nous disons qu'il y a le régime RPT l'Union, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui se passe maintenant. C'est Yadema avec son RPT qui fêtait les 24 avril, les 2 février. Et pourquoi unir fait ça maintenant? Pourquoi tout le temps unir célèbre et le 24 janvier et le 2 février ou tout cela? Donc, je voudrais dire à madame, à cette allure-là, il faut poser ce problème-là à l'Assemblée. C'est très important.
D'accord. Merci. Merci, Pélé, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Oui, Sylvain.
Oui, allez-y. Salut madame.
Bonjour, cher compatriote.
Je vous souhaite une bonne heureuse année.
Merci, bonne
et
année à vous aussi.
Pour le combat qu'ils mènent ensemble.
Merci beaucoup, cher compatriote. Que nous menons ensemble.
Tout ce qui s'est passé concernant les Sénégalais, les députés, franchement, bon, il paraît qu'en matière de renseignement, le Togo est champion. Et puis on nous dit souvent qu'on sait qui fait quoi et qui dit quoi dans ce pays. Donc moi, j'aurais souhaité, je ne sais pas, qu'on passe à autre chose, quoi. Ils savent ce qui se passe, ils savent ce qui s'est passé. Bon, il y a la diplomatie aussi qui a joué dedans. C'est un Sénégalais, mais il paraît qu'il y a une diplomatie. Donc, j'aurais souhaité qu'on passe à autre chose. Merci quand même.
Merci Sylvain pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Si réellement nos dirigeants sont conscients, l'affaire du député Guy Marus Sagna aurait été déjà bouclée. Mais ça prouve que s'il y a une enquête ouverte, on n'aura ou on saura jamais la fin. Suite à ça, nous les Togolais ici présents, on a failli être bastonnés. Mais Dieu merci, c'était pas le cas. C'est André depuis le Sénégal qui nous écoute. Bien sûr, depuis le Sénégal, sa réaction. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
C'est Abdel.
C'est Abdel lui-même.
Oui, Abdel, j'espère que
bonjour,
vous allez
bien. Bonjour, madame Agamagbo.
Bonjour, cher compatriote.
Toujours très heureux de vous écouter.
Ah, merci.
J'ai pris le train de l'émission un peu tard, mais je présume que la participation de la CDPA et de la dynamique de la majorité sera effective au sénatorial prochain, n'est-ce pas?
Pas du tout.
Oh.
Pas du tout, chers compatriotes. Vous n'avez pas suivi notre communiqué à travers lequel nous avions très tôt fait connaître notre position.
Ah, mais vous savez, madame, la politique a horreur du vide. Lorsque vous éclipsez, il y a quelqu'un qui prendra votre place. Moi, je vais vous inviter, quelle qu'en soit la situation politique, quelle qu'en soit tous les péripéties que vous estimez vivre au sein de cette politique, faut pas exclure les élections de vos agendas. Ça permet de garder le cap, ça permet à ceux qui sont autour de vous et derrière vous, vos militants, d'être actifs. Hein? Quel qu'en soit le cas, allez-y aux élections. Et bon, puisque vous êtes déjà pleinement dans la 5e République, pourquoi ne pas continuer? Continuez, madame.
D'accord. Abdel.
Merci.
Je pense que c'est... Oui. Voilà. Merci pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Canal FM, bonjour.
Bonjour, Séni. Comment vous allez?
Le messager de l'amour.
Oui. J'espère que vous allez bien.
Bonjour, madame Brigitte Adamago.
Bonjour, chers compatriotes.
C'est aussi le message de l'amour.
Ah, comment vous allez? Ça fait longtemps.
Oui, que Dieu vous accorde la santé et longue vie.
Amen, amen.
Dans l'affaire de Guy Sagna, pourquoi la sécurité n'est pas garantie en première position avant d'arriver à Lomé? Et secondo, je demande le gouvernement d'aider les agriculteurs à progresser dans l'économie. Merci et bonne émission.
Merci au Séni pour votre intervention. Madame, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Il est en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
On remercie Dieu.
D'accord, c'est monsieur?
C'est monsieur Dodi de Daravé.
Ah, monsieur Dodi de Daravé, allez-y.
Je remercie notre maman qui est avec vous.
Merci,
cher compatriote. Pour tous les efforts qu'il fait pour la nation togolaise.
Merci beaucoup, cher.
C'est une dame qu'on doit encourager de tous les temps.
Merci.
Elle est
beaucoup.
La seule exemplaire dans notre pays, le Togo. Mais je voulais lui demander, la ANC et l'FDR, avec son parti, ils n'ont qu'à faire tout possible pour sauver notre pays-là. C'est les trois partis que nous voyons sur notre territoire qu'ils travaillent un peu bon. Que Dieu les bénisse. Dieu les garde. Maintenant, ma question est, ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition et ils vont aller à ces élections-là, maintenant s'ils ne sont pas choisis comme sénateurs, qu'est-ce que nous, les peuples, nous, les populations, on va les faire? Parce qu'ils nous ont vendus, mais on veut tout ça dans la bouche de nos responsables. Je les remercie.
Merci beaucoup, Dodi, pour votre intervention. Je pense que Dodi est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Madame, nous allons revenir en plateau pour répondre aux différentes questions que les uns et les autres ont posées. Je sais que il y a eu beaucoup de commentaires, mais quand on prend Evangeliste Senghor, qui a été même le premier à nous appeler, il posait la question concernant ce qu'il y a des gens qui pillent alors les ressources alors du pays. Comment se fait-il que depuis là et ces gens là ne sont pas inquiétés et qui ne sont pas mis en prison?
Justement, c'est ce que nous dénonçons. Il y a une politique de deux poids deux mesures. On encourage l'impunité sur tous les plans, y compris l'impunité pour les crimes économiques. Mais quand il s'agit de mettre la main sur quelqu'un dont l'opinion n'est pas conforme à ce que pense le régime, au dessein du régime qui est de se maintenir indéfiniment au pouvoir, eh bien, il n'a même pas besoin de commettre un acte répréhensible. On tourne autour et on trouve un prétexte pour se jeter sur lui et le mettre en prison s'il le faut. On ouvre des enquêtes là, dans ce cas-là tout est clair, et puis on juge cette personne. C'est ce que nous dénonçons. Il faut que ça change dans ce pays, et ça doit changer. J'exhorte mes concitoyens à évoquer ce problème-là, à le dénoncer tout le temps pour que le régime comprenne enfin. Et dénoncer, il ne faut pas penser que c'est parler pour rien. On est arrivé à un stade où beaucoup se disent ce n'est même plus la peine, ce n'est pas la peine de parler. Mais la dénonciation, c'est déjà une arme que nous avons, et qu'on le veuille ou pas, ça a de l'impact. Ça permet de voir, le Togo ne vit pas en autarcie. Vous avez vu jusqu'à quel point on dépend d'autres pays, on dépend de puissance. Et je reviens encore sur l'exemple récent de la décision qui a été prise par le MCC de ne pas encore laisser le Togo bénéficier du programme Compact, qui est un programme important où des centaines de millions de dollars sont en cause. Regardez pourquoi, quelle est la raison qui est évoquée. On leur dit, vous devez faire des progrès dans la protection des droits démocratiques. Ça veut dire, nous vous observons, nous voyons comment les Togolais réagissent, nous voyons ce que vous faites, nous voyons que le Togo n'est pas un pays encore démocratique, que les droits des citoyens sont encore violés. On leur dit les libertés publiques et tout ça là, c'est en cause. Ils voient aujourd'hui que les partis politiques, les associations ont du mal à se réunir pour dire autre chose. Ils ont vu la preuve que le 29 septembre 2024, quand on s'est réunis dans notre siège, eh bien, on a été agressés. Et tout ça là, ça engage la responsabilité de l'État. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on ne veuille pas donner les résultats de cette enquête. L'inaction ou l'étouffement de cette affaire là va être assimilable à un aveu. Ça veut dire que le gouvernement va reconnaître que c'est lui qu'il est d'accord, et non seulement il est d'accord, mais c'est lui qui a commandité ce qui s'est passé. Et donc, ne nous décourageons en rien du tout. Mais permettez-moi, comme vous avez commencé je voulais commencer par autre chose, et notamment par l'intervention de notre compatriote qui a insinué de manière malicieuse que nous sommes dans la Ve République, en s'adressant à moi. Et je répondrai en même temps à votre confrère, mon voisin, que le régime est dans la 5e République. Mais nous, opposition, nous contestons cette 5e République-là. Nous ne l'acceptons pas. Ils sont dans la 5e République. Et nous nous battons pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire marche arrière, qu'ils ne doivent pas aller de l'avant dans ce coup de force constitutionnel. Donc, cette insinuation malicieuse-là, je veux la dénoncer et dire c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que nous sommes positionnés clairement contre la 5e République. D'accord. Nous avons été élus à l'Assemblée nationale sous la 4e République pour travailler sous la 4e République et non la 5e. Et nous l'avons dit. C'est notre ligne de conduite dans le combat que nous allons continuer D'accord. à mener à l'Assemblée nationale. D'accord.
Madame, c'est vrai que Abdel vous a fait une proposition concernant le fait que lui vous proposait alors d'aller aux élections. Et qu'est-ce que vous répondez sur cette proposition?
Non, il y a. On ne peut pas considérer ça comme des conseils bienveillants. Hein? On sait ce qu'on veut insinuer. Et je réponds tout simplement en disant il y a deux raisons fondamentales qui font que nous ne pouvons que rejeter ces élections sénatoriales et nous ne pouvons pas y aller. Un, les Togolais souffrent suffisamment pour que nous cautionnons la création d'une institution qui va encore absorber des ressources financières dont les Togolais auraient besoin pour mieux vivre. D'accord. Et deux, jamais, au grand jamais, on ne nous utilisera pour installer le coup de force constitutionnel. D'accord, pour élire ou acter les décisions prises concernant les institutions d'une république qu'on instaure comme un coup de poignard dans le dos.
D'accord, madame, nous sommes à la fin de cette émission, mais bien, bien avant de terminer, bien sûr, cette émission, nous avons une injonction au niveau de la technique. Maintenant, je le disais que nous sommes à la fin de cette émission. Alors, si vous avez un mot de la fin pour...
Le mot de la fin, merci beaucoup. Je le réserve pour l'actualité du jour, ce qui se déroule actuellement. À la cour d'appel. J'avais manqué à un devoir, c'est celui de féliciter les avocats qui sont des citoyens togolais et qui, dans le contexte difficile où nous sommes, ont compris que il est plus que jamais important de défendre les droits de l'homme à chaque fois qu'ils sont mis à cause. J'ai reconnu là-bas Maître Achou Darius, j'ai reconnu Maître Amazouhon, je crois en avoir reconnu d'autres, qu'ils me pardonnent de ne pas les citer tous, mais je leur dis félicitations, la nation saura leur en être.
D'accord. Merci beaucoup, madame. Et courage. Merci beaucoup, madame, d'être passée dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et répondu également aux questions que nous vous avons posées. Merci d'être passée. Et merci, Uriel Enyang, également, d'être passée, bien sûr, dans cette émission. Merci. Et à mon ami Gosson Ketomania, d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez appelés aussi, vous qui nous avez appelé pour votre intervention également dans cette émission, merci à vous. Michel Tomiga était à la mise en onde, Jérôme Akouta à la mise en ligne, je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.